Si tout le monde est en place, je vais commencer par vous remercier d'être aussi nombreux pour cette rencontre avec Pierre-Henri Gouillon. Je ne sais pas s'il faut encore le présenter. C'est une figure bien connue de la biologie. Donc, si j'ose dire, un biologiste à spectre large qui a travaillé un peu sur tous les aspects de la théorie de l'évolution, d'une façon générale de l'évolution, à la fois dans ses aspects théoriques, ses aspects génétiques, ses aspects éthiques éventuellement. Qui a un CV que je ne commencerai pas à vous lire parce que sinon on en a pour la journée. Je crois que vous avez enseigné dans tous les lieux les plus prestigieux de la République. Vous êtes aujourd'hui professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, à Sciences Po. Vous avez enseigné à l'École Polytechnique, à Agro, et j'en oublie sans doute beaucoup. Donc je serais tenté de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'il est important d'enseigner l'évolution aujourd'hui, un siècle après, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que c'est une affaire entendue et que c'est rentré dans les mœurs, c'est universellement admis?
Alors, premièrement, c'est pas parce que quelque chose est rentré dans les mœurs qu'il ne faut pas l'enseigner, mais en plus, c'est pas vraiment rentré dans les mœurs. C'est quelque chose que je découvre progressivement, en fait, en vieillissant. J'ai enseigné l'évolution depuis pas mal d'années, j'ose pas vous dire combien. J'ai commencé par enseigner des aspects génétiques et puis progressivement je suis arrivé à des choses plus larges, mais j'ai constaté qu'en réalité, la vision évolutive du monde n'était absolument pas rentrée dans notre culture. Alors je ne vous parle pas des créationnistes, mais en réalité, si j'ose dire, la biologie est enseignée comme si les êtres vivants avaient été créés à l'école, au collège et en grande partie au lycée. Je veux dire par là que dans les cours de SVT, les jeunes sont confrontés à une vision du monde vivant où le monde vivant est organisé en espèces qui sont des entités stables, qu'on peut définir par le fait qu'elles se croisent pas entre elles, mais qu'elles se croisent à l'intérieur. Et déjà, rien que ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, évidemment, à partir du moment où l'évolution s'est produite, mais se produit encore, eh bien, il y a des populations qui divergent progressivement, puis qui progressivement deviennent de plus en plus indépendantes les unes des autres, qui éventuellement vont avoir de plus en plus de mal à se croiser, c'est même pas nécessaire. Il y a quelques années encore, il y a une quarantaine d'années, on pensait que les lions et les tigres ne pouvaient pas faire des hybrides. Puis on a découvert que finalement, ils en faisaient. Et puis quand on a découvert qu'ils en faisaient, il y a eu une vision, toujours cette vision un peu religieuse de l'espèce qui a amené les gens à dire « Ah oui, bon, d'accord, il y a des hybrides, mais ils vont être stériles. » Ils n'en avaient aucune idée, ces hybrides étaient des bébés. Ben, ils ne sont pas stériles, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On a la deuxième génération. Et puis, si vous regardez bien, dans le monde vivant, il y a des tas. Je pense que le cas où des espèces ne peuvent absolument pas se croiser avec des espèces voisines, ce n'est pas la règle du tout, c'est plutôt l'exception. On classe les formes vivantes en espèces et ces espèces sont regroupées en genres, qui sont des catégories encore plus larges, qui regroupent plusieurs espèces, et puis les genres sont regroupés en familles, etc. Eh bien, des croisements entre espèces appartenant à des genres différents, ça existe. L'exemple le plus célèbre, c'est le croisement entre chèvre et mouton. Alors, si vous voulez voir la tête que ça, c'est très mignon. Hein, vous tapez dans votre navigateur préféré, vous tapez GIP, G2EP, goat, sheep en anglais. Et vous verrez une très belle image de ces petits hybrides qui sont fertiles. Voilà, Darwin avait insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de limite claire des espèces. Et d'ailleurs, dans la conclusion de l'origine des espèces, il disait que le jour où sa théorie aura été bien comprise, les gens arrêteront de se pouiller pour savoir si deux trucs sont des espèces différentes ou pas, parce qu'ils comprendront que ça n'a aucune importance. Ben ça, c'est la seule prédiction qu'il ait faite qui ne s'est pas du tout réalisée. Les biologistes continuent à être obsédés par cette vision de l'espèce. Donc Voilà, je voudrais insister là-dessus. Je pense que nous sommes tous, que vous soyez croyants ou non, terriblement impactés par cette image de la genèse. Et la genèse, c'est une création du monde comme ça, stable, avec des espèces qui sont créées bien, chacune selon sa forme. Et souvent, des gens croient qu'ils sont évolutionnistes, mais en fait, ils parlent comme s'ils étaient créationnistes. Souvent, ils remplacent le mot créateur par le mot évolution. Ils vont vous dire l'évolution a créé les espèces. Vous voyez, vous prenez le créateur à créer les espèces, vous employez le mot créateur, vous mettez évolution, puis crac, c'est pareil. Et ce qui est terrible, ce qui fait que c'est très faux, c'est que c'est mis au passé. Comme si ça n'existait plus aujourd'hui, comme si ça y est, c'est fait. Et du coup, si je veux conserver la nature, il faut que je la conserve telle qu'elle. Mais que ça a des conséquences appliquées énormes. Les gens qui croient qu'on peut conserver la biodiversité telle qu'elle est, c'est des gens qui n'ont pas compris que la biodiversité, ça inclut totalement le processus d'évolution. Donc oui, il y a vraiment besoin d'enseigner l'évolution et il y aurait besoin de l'enseigner. Je voulais, excusez-moi d'être un peu long pour cette introduction, mais il y aurait besoin de l'enseigner
tout de suite.
Appartient. Dès le primaire. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire à des enfants, décrire à des enfants un monde vivant stable et puis après, un beau jour, du côté de la troisième, on commence à insister un peu sur le fait que c'est, ça a évolué. J'en ai beaucoup parlé avec des inspecteurs généraux d'éducation nationale, avec des enseignants. Et il y en a qui m'ont dit, oui, il faut respecter un certain ordre de la découverte des choses. Je leur dis, bah, c'est ça, enseigner que la Terre est plate au primaire. Et puis au collège, on commencera à leur dire que peut-être elle est un peu ronde. Et puis en troisième, on leur dira qu'elle est vraiment ronde. Bah, vous verrez, ça ne marche plus, c'est trop tard. L'image qu'on se fait du monde, on se la fait quand on est tout petit. Hein, si jamais vous croyez que la Terre est plate et que tout d'un coup on vous dit qu'elle est ronde, vous trouvez ça incroyable, vous vous dites, mais les mecs de l'autre côté, ils ont les pieds en bas, ils ont les pieds en l'air, etc., ça ne marche pas. Il y a des enfants qui ont dit que la Terre est ronde et qui posent cette question, comment font les types de l'autre côté avec les pieds dans l'autre sens. On leur dit qu'ils ne s'inquiètent pas, que ça marche quand même, qu'ils collent de l'autre côté aussi. Bon, et puis voilà, les mômes, ils acceptent le truc et ça rentre. Et puis voilà, après, c'est admis. Il y a des gens qui croient que la Terre est plate, il y en a encore. Il y a une association des Amis de la Terre plate aux États-Unis, mais elle est quand même très minoritaire. Alors que des créationnistes, il y en a beaucoup plus. C'est normal parce que comme l'évolution, on l'apprend tellement tard, elle ne fait pas partie de notre culture de base. Et je pense qu'il y a vraiment besoin d'insister là-dessus. Voilà.
Pour renforcer sur ce que vous disiez sur le fait qu'il faut commencer très tôt, je voudrais citer la conférence d'Estelle Blanquet, je crois que c'est mercredi, qui travaille beaucoup avec les tout-petits et qui montrera qu'en fait, on peut commencer à travailler la méthode scientifique dès l'école maternelle et que c'est souvent très efficace.
Ça m'arrive souvent d'aller dans des classes de primaire pour discuter avec les élèves. Et c'est génial. Moi, c'est là que c'est un enseignement formidable parce que vous posez une question à des enfants. Hein, vous leur expliquez, par exemple, que la girafe avait un ancêtre qui avait un cou beaucoup plus court, mais qu'il y avait à manger en hauteur. Et donc, que voilà, aujourd'hui, on observe des girafes. Je commence à discuter avec eux de comment ça a pu arriver. C'est génial parce qu'il y en a toujours qui me font un mouvement comme ça. Ils se tirent sur la tête pour essayer d'allonger. Et c'est logique de penser qu'en tirant sur la tête, le coup sera plus long. Et ben voilà, on peut leur expliquer que non, ça ne marche pas, qu'on a essayé, qu'il y a des dames d'ailleurs qui se mettent des anneaux au cou pour s'allonger le cou et que leurs filles ont des coups de la même longueur qu'elles. Et donc, en arriver à l'idée de variation et de sélection, c'est très facile à expliquer dès le primaire. Simplement, ce n'est pas encore dans notre culture.
Vous disiez qu'il semblait que beaucoup de gens raisonnaient encore comme s'ils avaient une notion de création. Est-ce que ça ne pourrait pas être aussi plus récent, en fait, en effet, par exemple, de l'introduction de la biologie moléculaire? Il me semble que c'est Francis Crick qui disait que le dogme fondamental de la biologie moléculaire, c'était fondamentalement une hypothèse linéariste, le fait que le gène ne changeait pas.
Bon, alors ça, ça sera le sujet d'une table ronde tout à l'heure sur le gène égoïste. Je vais essayer de pas trop en parler maintenant, mais l'idée que l'information part du gène et arrive à l'organisme, c'est-à-dire que vos gènes contiennent une information qui vous amène à avoir deux jambes et si on vous coupe une jambe, l'information qui vous manque une jambe ne pourra pas retourner dans vos gènes, ça ne marche pas dans l'autre sens et ça reste tout à fait vrai, mais en fait ça a été découvert par un embryologiste allemand à la fin du 19e siècle qui s'appelait Weismann. Hein, il a rejeté ce qu'on appelait l'hérédité des caractères acquis, cette idée donc que si jamais j'ai une jambe coupée, mes enfants pourraient avoir une jambe en moins. Tout le monde croyait à ça jusqu'à la fin du 19e siècle. Hein, jusqu'à Weismann, tout le monde pensait que l'hérédité des caractères acquis existait, que si on perdait une jambe, on avait des chances d'avoir un enfant avec une jambe de moins. Il y a quelque temps, j'enseignais ça à des étudiants et il y en a un qui me dit, mais quand même, ils étaient un peu bêtes à l'époque, ils n'avaient pas vu que les unijambistes faisaient des enfants à deux jambes. Et oui, mais dans notre culture, il y a tout plein d'idioties qu'on n'arrête pas de raconter comme ça. Et vous connaissez la parade à ce truc-là, hein, c'est parce que je suis sûr que vous avez déjà entendu cette ineptie. Hein, ça saute des générations. Hein, vous l'avez déjà faite, celle-là. Hein, vous voyez, ça règle tous les problèmes, vous voyez. Donc le mec, il a qu'une jambe, il a un enfant à deux jambes. Ah oui, mais c'est parce que ça saute des générations. Ça ressortira un jour ou l'autre. Hein. Hein, vous voyez ce genre de conneries qui traînent dans notre culture et qui permet de maintenir les théories les plus idiotes. Donc effectivement, quand Weismann a montré que ça ne marchait pas, alors il a coupé la queue de souris pendant des générations pour montrer que ça ne faisait pas naître des souris sans queue. C'est un peu vache, mais ça... Et en fait, il connaissait déjà la réponse. Hein. Il était sûr du résultat parce qu'il avait fait remarquer déjà à des amis que la manip avait déjà été faite avec le prépuce des jeunes garçons dans pas mal de cultures, etc. Hein, on a beau circoncire les garçons, ils naissent pas sans prépuce au bout d'un certain nombre de générations. Mais n'empêche que c'est une idée qui est vachement attachée aussi dans notre culture, vous voyez. Il y a quelques années, à la fac d'Orsay, où j'étais prof à l'époque, on avait fait un questionnaire pour les étudiants de troisième année, donc qui commençaient normalement à avoir un peu de culture. Et parmi les 100 questions qu'on leur avait mises, il y en avait une qui était vraiment piège, c'était « Il y a des races de chiens à qui on coupe les oreilles en pointe pour qu'elles tiennent bien droites. Si on fait ça pendant beaucoup de générations, est-ce que vous croyez que ça finira par changer les formes des oreilles des chiens en question ?» Et bien, on a eu un tiers de oui. Alors, je vous le dis tout de suite, la bonne réponse, c'est non. On peut toujours couper les oreilles des chiens, ça ne change rien à comment ils naissent. Et bien, il y a un tiers d'étudiants qui étaient en troisième année de bio qui répondaient oui. Donc, c'est quand même, ça montre à quel point ce genre d'idée est profondément incluse dans notre culture. Donc, il a fallu alors se débarrasser de ça. Donc, Weissmann nous débarrasse de ça. On l'a appelé ultra-darwinien. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où ce qui arrive à mon corps ne peut pas être transmis à mes descendants, ça veut dire que je ne fais que transmettre ce que j'ai reçu de mes parents. Je ne produis pas d'hérédité, je ne fais que la transmettre. Et du coup, on dirait qu'il n'y a plus aucun passage de ce que je suis vers la constitution génétique des générations suivantes. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Il reste une manière par laquelle l'environnement peut influencer la constitution génétique, c'est la sélection. C'est-à-dire que certes, je ne peux pas décider, ce que je suis ne change rien aux gènes que je transmets, mais ce que je suis change combien de gènes je vais transmettre, combien de descendants je vais faire. D'accord ? Donc si jamais il y a un environnement, par exemple, où il fait très chaud et il faut résister au chaud, s'il y a des constitutions génétiques qui résistent mieux au chaud, eh bien, ces gènes-là vont se transmettre plus. Et donc, il y a bien une influence du milieu sur les gènes, mais à travers la sélection, à travers le fait que les individus les mieux adaptés font plus de descendants que les autres et que du coup, la constitution génétique de la génération suivante contient plus les gènes qui permettaient aux individus d'être les mieux adaptés. Donc, tout compte fait, il y a bien un retour, mais il ne se fait pas directement physiologiquement, il se fait à travers la sélection.
Est-ce que c'est ce que Darwin appelle la sélection sexuelle ?
Non, la sélection naturelle, donc c'est la sélection des organismes qui... Alors Darwin, il n'y avait pas de génétique à l'époque. D'ailleurs, il acceptait l'hérédité des caractères acquis. Ce n'était pas un problème pour lui. Il la rentrait dans le bazar qui fait de la variation. Et la sélection qu'il appelle naturelle, c'est la sélection donc, exercée par le milieu naturel dans son ensemble. Mais au fond, dans cette sélection naturelle, il distingue un cas très particulier qu'il appelle sélection sexuelle et qui est le fait que les individus vont devoir trouver des partenaires pour se reproduire. Et très souvent, dans beaucoup d'espèces... les mâles sont plus disposés à avoir beaucoup de partenaires que les femelles. En tout cas, ils peuvent avoir potentiellement plus de descendants que les femelles. Pourquoi ? Parce qu'une femelle, elle est limitée dans le nombre de descendants qu'elle fait par le coût physiologique de la production du descendant. C'est particulièrement net dans des espèces comme la nôtre. Alors que les mâles, le fait de faire un descendant, ça ne leur coûte pas grand-chose. En général, presque rien, disons-le franchement. Pour nous, évolutionnistes, on présente parfois les mâles comme des parasites des femelles. Comment vous appelez un individu qui vous injecte ses gènes pour que vous lui reproduisiez sans rien foutre lui-même ? Un parasite ou un mâle, comme vous voulez. Donc évidemment, les mâles vont... Souvent, c'est les femelles qui vont choisir et les mâles qui vont essayer d'obtenir les faveurs des femelles. Et du coup, les critères selon lesquels les femelles vont accepter les mâles vont pouvoir être très divers. Et ça peut aboutir à des choses tout à fait surprenantes. La queue du paon, par exemple. C'est complètement débile d'avoir une queue de cette taille-là. Franchement, n'importe quel prédateur qui va vous courir après va vous attraper 10 fois plus facilement avec une queue comme ça. Mais on a pu montrer qu'effectivement, les femelles trouvent que les mâles qui peuvent faire une grande roue comme ça sont vachement plus séduisants que les autres. On a coupé la queue d'un mâle, d'un paon mâle, et on le présentait aux femelles, elles n'en voulaient plus. Et on rajoutait les plumes à un autre pour que ça fasse encore plus. Et là, celui-là, elles le trouvaient super séduisant. Donc Darwin a utilisé l'idée de sélection sexuelle pour deux choses. D'une part, pour montrer que la sélection pouvait produire des trucs très très surprenants, comme ces queues de paon, ces jabots extrêmement rouges chez les frégates, des couleurs absolument incroyables. Il faut être fou quand on est un animal qui vit dans la nature pour se parer de couleurs extrêmement voyantes, évidemment. Tous les prédateurs vont vous repérer tout de suite. Mais si c'est la seule manière d'obtenir les faveurs des femelles, bah, tant pis, il faut le faire. Donc la sélection sexuelle va un peu contre le reste de la sélection naturelle, si vous voulez, dans un certain nombre de cas. Et puis, ça avait pour Darwin un autre avantage, cette histoire-là, c'est que d'une certaine façon, oui, il présentait la sélection en partant de la sélection exercée par les humains, donc un éleveur qui choisit des chiens qui courent vite et qui finit par arriver à faire des lévriers, ou des chiens qui résistent bien au froid, ou au contraire des chiens tout petits, et donc vous connaissez la diversité qu'on a pu fabriquer chez les chiens. Mais là, c'était un individu qui choisissait un humain. Donc voilà, on voyait bien ce que c'était que la sélection, ça on connaissait déjà bien avant Darwin. Et quand il présente la sélection naturelle, il dit, ben voilà, au fond, il se passe la même chose dans la nature, sauf que ce qui sélectionne, c'est la nature, c'est vraiment les conditions environnementales qui vont faire qu'un individu va mieux réussir qu'un autre. Or, la sélection sexuelle, vous voyez, c'est un truc un peu intermédiaire. C'est-à-dire que le choix n'est pas fait par la nature dans son ensemble, mais par une femelle. Donc, c'est plus un humain, mais c'est quand même encore un individu. Et c'est un individu à l'état de nature, un individu qui va faire un choix et qui va, du coup, influencer le devenir de la forme des autres organismes. Donc, vous voyez, la sélection sexuelle, c'est une sorte d'intermédiaire entre la sélection humaine et la sélection naturelle.
Est-ce que c'est un aspect du darwinisme qui est aussi enseigné que la sélection naturelle? Et sinon, pourquoi est-ce qu'il y a une difficulté plus grande à enseigner la sélection sexuelle que la sélection naturelle?
La sélection sexuelle pose des tas de... Bon, premièrement, évidemment, on ne va pas commencer par la sélection sexuelle. La sélection naturelle, c'est bien plus général et ça explique plus de choses. Donc, quand on commence par la sélection naturelle. La sélection sexuelle, elle pose des tas de problèmes parce que, en fait, une question compliquée, c'est peut-être difficile à... Je sais pas si, parce qu'en fait, on a du mal à ne pas penser, évidemment, en se référant à nous-mêmes. La question, c'est pourquoi est-ce que les femelles choisissent? Pourquoi elles ne prennent pas le premier qui passe? Hein, mais c'est pas évident, ça. Hein. Et alors, pourquoi en plus, elles choisissent des trucs aussi débiles, hein, que la grande queue, la tache rouge, la crête rouge sur la tête, enfin, des machins comme ça, complètement délirants. Alors, y a encore beaucoup de débats là-dessus parmi les évolutionnistes parce qu'on n'a pas la réponse. En réalité, quand la science, au début, ces questions ont été posées par des hommes, parce qu'il y avait beaucoup de chercheurs qui étaient des hommes. Alors, l'idée qui a été la plus défendue, c'était que les femelles cherchaient à repérer chez le mâle des bons gènes qui feraient qu'elles aient des beaux enfants. Vous voyez, c'est une vision de mâle. Moi, je suis un bon père, je vais fabriquer des enfants vachement bien et tout, et donc c'est pour ça qu'il faut me prendre moi, quoi. Et donc, ça s'est pas mal développé comme ça. Il y a quand même un théoricien anglais, un très grand théoricien de l'évolution qui s'appelait Fisher, au début des années 30, qui a montré qu'au fond, il n'y avait pas vraiment besoin que ça serve à quelque chose. Parce qu'il suffit que pour une raison quelconque, mettons, vous voyez des femelles qui sont habituées à manger des fruits rouges et du coup, elles aiment bien le rouge. Et si jamais, du coup, elles préfèrent les mâles qui ont un truc rouge sur la tête, eh bien, du coup, les mâles ont intérêt à avoir le truc rouge sur la tête puisque comme ça, les femelles les choisiront. Et puis, les femelles ont intérêt à choisir des mâles qui ont un truc rouge sur la tête parce que comme ça, leurs fils auront du succès. On appelait ça l'hypothèse du sexy son, vous voyez, le fils sexy. C'est-à-dire que donc plus les femelles choisissent des mâles avec des trucs rouges, mieux elles se reproduisent puisqu'elles font des fils plus sexy. Et du coup, plus les mâles ont intérêt à avoir un truc rouge, et du coup, plus les femelles ont intérêt à préférer les mâles avec un truc rouge. Et donc, il y a une espèce d'effet boule de neige, en anglais « runaway process hein. ». Et du coup, il y a une augmentation de ce caractère, même s'il n'avait pas de sens au départ. Et ça, il y a un labo de femmes qui a fait des manips très rigolotes là-dessus. Elles ont pris des oiseaux, et puis elles leur ont collé des cravates, des chapeaux. Truc qui n'avait aucun sens, et les femelles choisissaient. Les femelles choisissaient les mâles avec des chapeaux d'une certaine forme plutôt que d'une autre, avec des cravates comme ci ou pas comme ça, etc. Donc ça a bien montré qu'en réalité, il y a des critères de choix qui ne sont pas fonctionnels, qui ne sont pas parce que ça sert à quelque chose, mais qui sont bien dus à une préférence générale, si vous voulez, de la femelle, et qui du coup, une fois qu'il y a des individus comme ça, ça va donner des résultats. Alors, on a reproché à ces travaux que vraiment des chapeaux et des cravates, c'était trop artificiel, alors que ça voulait rien dire. Du coup, elles ont fait des trucs plus subtils. Elles leur ont collé des plumes sur la tête, comme ça. Et ça a marché aussi. Vous prenez un petit pinson tout à fait normal, vous lui collez une plume sur la tête, et paf, il y a des tas de femelles qui le trouvent plus séduisant comme ça. Bon. Donc, en réalité, il y a des gens qui pensent que tout compte fait, si les femelles choisissent les mâles, c'est juste pour des critères esthétiques qui n'ont rien à voir avec des effets adaptatifs, etc. Et puis il y en a d'autres qui pensent que si les femelles choisissent les mâles, c'est parce qu'elles cherchent des mâles qui ont des bons gènes pour fabriquer des bons descendants. Et pour le moment, le débat reste absolument entier. Vous voyez, on ne sait pas tout. Il y a de la place pour la recherche encore.
J'évoquais tout à l'heure le linéarisme de Crick. Est-ce que là, on n'est pas au contraire dans le profondément non linéaire, voire dans le chaotique et dans la sensibilité aux conditions initiales? À très moyen terme, est-ce que ça n'introduit pas une complexité extrême dans la biologie des populations?
C'est un vrai problème. Hein. C'est une question qui s'est posée souvent. Il y a un grand évolutionniste qui est mort il n'y a pas très longtemps, donc qui s'appelait Steve Gould. Hein, si vous vous intéressez à l'évolution, vous pouvez avoir lu Le pouce du panda, La vie est belle, ou tous ces livres remarquables. Et Gould a posé la question explicitement. Imaginons, à plusieurs collègues, imaginons que l'évolution recommence. On revient 4 milliards d'années en arrière. La Terre se forme, et puis on laisse le processus se faire. On repart exactement des mêmes conditions initiales. Qu'est-ce que vous pensez qu'on trouvera à la fin? Alors, je ne sais pas quelle est votre opinion personnelle. Je vous préviens que votre opinion personnelle, elle est tout aussi valable que celle de n'importe qui d'autre parce que personne n'a la moindre idée de la réponse. Hein. Mais quand on fait un sondage là-dessus auprès de scientifiques, on trouve qu'il n'y en a aucun qui dise que ça serait strictement pareil. C'est-à-dire que, vous voyez, il y aurait une ville qui s'appelle Nantes avec un machin qui s'appelle les Utopiales et puis qu'il y aurait les mêmes gens là en train d'écouter les mêmes types qui racontent des conneries sur la scène et tout. Ça, personne ne pense ça. Mais il y a des gens qui pensent qu'il y aurait quand même des plantes et des animaux, mais qu'ils ne seraient pas exactement la même tête. Et puis, il y en a qui pensent que ça n'aurait rien à voir. Puis, il y en a même qui pensent que, dans certains cas, il n'y aurait même pas eu de vie qui aurait commencé. Et on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'évolution, une part de contingence qu'on ne sait pas évaluer. Donc, beaucoup pensent qu'elle est très forte. Ce qu'on appelle la contingence, vous voyez, c'est le fait qu'il y a une chose qui s'est produite une seule fois sur Terre et qu'on ne peut absolument pas savoir. Pour faire des statistiques, pour savoir ce qui est nécessaire et ce qui est contingent, il faut pouvoir avoir plusieurs exemples. C'est évident que si on trouvait de la vie sur une autre planète, ça serait génial de pouvoir comparer ce qu'il y a de commun avec la nôtre et ce qu'il n'y a pas. Mais tant qu'on n'en a pas d'autre, on n'a qu'une expérience et donc on n'a aucune idée de ce qui devait nécessairement arriver et de ce qui arrivait absolument de façon contingente parce que ça a été ce coup-là et une autre coup, ça aurait donné autre chose.
C'est l'un des thèmes récurrents de la science-fiction qui aime beaucoup les voyages dans le temps et certains auteurs ont développé l'idée de soit jouer avec l'idée effectivement du chaos, soit avec celle d'une forme de robustesse, d'une vision un peu eschatologique de l'histoire. Est-ce que ce type d'expérience de pensée qui relève, qu'aiment beaucoup les auteurs de science-fiction peuvent être utiles aussi aux chercheurs plus sérieux en biologie ?
Bon, c'est clair que toutes les questions qu'ont posées les auteurs de science-fiction sont très intéressantes. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sexe. C'est une question qu'on se pose en évolution. Pourquoi le sexe? Quelle drôle de manière de se reproduire, franchement. C'est bien compliqué. On s'y met à deux pour faire ce qu'une des deux aurait pu faire toute seule. Donc, c'est pas efficace du tout. Ça demande un investissement énorme. Parce que non seulement on s'y met à deux pour faire ce qu'un aurait pu faire tout seul, mais il faut aussi chercher un partenaire ou une partenaire. Alors que le clonage, la reproduction asexuée, la parthénogenèse, ça marche super bien. Il y a des tas d'espèces qui font ça et c'est infiniment plus efficace. Je ne sais pas si vous avez un jardin, mais si vous avez un jardin et que vous avez des rosiers, par exemple, eh ben, vous regarderez des pucerons qui envahissent votre rosier. C'est incroyablement efficace. Ils vont 10 fois plus vite que n'importe quoi d'autre parce que justement, ils ne perdent pas de temps à faire du sexe. C'est que des femelles, elles font des filles, qui font des filles, qui font des filles. Et ça va très, très vite. Donc, pourquoi le sexe? Voilà, bon, donc c'est une grosse question, on pourra en reparler si vous voulez, mais c'est pas le sujet tout de suite. Mais et puis pourquoi comme ça? Et moi, j'ai beaucoup aimé regarder dans la science-fiction, par exemple, quels étaient ce qu'avaient pu imaginer les auteurs. Alors, c'est vachement difficile d'imaginer des êtres vivants sur une autre planète, hein, parce que je trouve que les auteurs de science-fiction n'ont pas toujours été très imaginatifs. Hein. Des fois, ils ressemblaient à des humains, carrément, parfois à des espèces d'autruches ou... Enfin, des trucs qui existent sur Terre, quoi. Mais j'avais été impressionné, je me souviens, dans un bouquin d'Asimov, d'ailleurs, qui s'appelle « Les dieux eux-mêmes », où là, alors, les êtres vivants étaient absolument indescriptibles, tellement ils étaient différents de nous. D'ailleurs, il y avait trois sexes qui devaient tous les trois fusionner pour faire un descendant. Et l'un des trois était gazeux. Donc, c'était quand même vraiment différent, alors, de ce qu'on connaît, nous. Mais ça permet de réfléchir à qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui ne l'est pas de ce que je vois, moi, chez les êtres vivants actuels. Et je vous dis, je pense qu'on manque terriblement d'imagination sur ce plan-là. Ouais. Donc, même les auteurs de science-fiction ont du mal, mais au moins, chez eux, on trouve des trucs auxquels on n'aurait pas pensé nous-mêmes. Ouais.
On a quand même toute une variété d'idées exotiques, plus souvent, d'ailleurs, dans les nouvelles que dans les histoires, dans les romans, parce que c'est difficile de tenir un roman entier avec une personnalité extrêmement exotique à laquelle il est parfois difficile de s'identifier, mais on a de très beaux exemples. Je me viens à l'esprit, par exemple, Un amour de sable de Sylvie Lainé, qui est à l'étage au-dessus, qui présente sable, et comme son nom l'indique, un être de sable, donc un être au périmètre en variation permanente, qui échange du sable avec d'autres, qui ne se reproduit pas réellement, mais qui échange du sable, qui échange la matière et de l'information avec son environnement. On a toute une variété d'êtres très exotiques, mais c'est extrêmement difficile de raconter véritablement des histoires complexes avec ce type d'être.
Oui, dans l'histoire de sable, quand même, en général, il n'y a que deux partenaires, non, si je me souviens bien.
Un amour de sable raconte la rencontre de sable, ouais. Donc, qui est chez lui, ouais. Avec des humains, ouais. Qui débarquent, ouais. Et qui sont très surpris quand sable, par exemple, absorbe un humain. Pour les humains, c'est un meurtre. Alors que pour Sable, c'est simplement une tentative de communication, d'assimilation, et elle échange de la matière contre d'autres matières. Pour elle, elle est en train de faire quelque chose de très noble, alors que c'est perçu comme une agression par les humains. C'est malheureusement souvent la conclusion des histoires de rencontres avec des êtres très différents de nous. On a beaucoup de mal à se comprendre. Vous disiez avoir travaillé beaucoup sur le sexe. Je reviens sur la question d'enseignement. C'est un peu la même question que tout à l'heure, mais est-ce que ce sont des sujets qu'il est facile d'enseigner? Est-ce qu'il y a des tabous qui portent sur ces questions-là? La question suivante étant bien sûr celle que vous avez évoquée tout à l'heure, les créationnistes. Il y a aussi des tabous religieux. Est-ce qu'en tant qu'enseignant de la biologie, en tant qu'enseignant de l'évolution, vous vous heurtez à des tabous, à des postures théoriques, à des préjugés très violents, qu'ils soient de nature sexuelle, qu'ils soient de nature religieuse ou de toute autre nature?
Alors, un préjugé qu'on est obligé de combattre constamment quand on enseigne l'évolution, c'est le préjugé qui dit que... On appelle ça panglossien dans notre jargon. Alors, Pangloss, c'était un philosophe inventé par Voltaire pour se moquer de Leibniz. C'est le précepteur de Candide dans le conte Candide. Et Pangloss enseigne la métaphysico-théologo-cosmolonigologie, qui est une science dans laquelle on explique que tout est au mieux. Et un exemple qu'il donne, c'est que les nez ont été faits pour porter des lunettes et que c'est pour ça que nous portons des lunettes. Et cette vision de la biologie panglossienne, donc cette vision où tout est au mieux, c'est une vision qu'on a beaucoup de mal à combattre, effectivement. Et en particulier, il y a des phrases qui reviennent. Alors, je vous ai cité la phrase « ça saute des générations » tout à l'heure. Il y en a une autre qui revient assez souvent chez les biologistes et qui est totalement fausse. C'est l'idée que les organismes font quelque chose pour la perpétuation de l'espèce. C'est complètement idiot. Personne ne fait rien pour la perpétuation de l'espèce. Je pense que la plupart des gens ici qui ont eu des enfants, ce n'était pas pour perpétuer l'espèce humaine, c'est parce qu'ils avaient envie d'avoir des enfants, c'est tout. Alors on pourra discuter tout à l'heure avec le gène égoïste de qu'est-ce qui leur donne cette envie d'avoir des enfants, mais ce n'est certainement pas la perpétuation de l'espèce. Alors du coup, l'histoire du sexe, elle est un peu spéciale parce qu'elle oblige à lutter absolument contre cette vision panglossienne du monde, dans la mesure où effectivement on va devoir comprendre qu'une reproduction asexuée, une reproduction sans où les femelles ne produisent pas de mâles, gagne contre une reproduction sexuée. C'est pas difficile de faire l'expérience de penser. Imaginez une population dans laquelle il y a des hommes et des femmes, ils font des enfants ensemble. La stabilité démographique est obtenue quand les femmes font exactement 2 descendants par femme. On dit 2,1 parce qu'il y en a qui meurent, etc. Mais s'il n'y avait pas qui meurent, ça serait 2 par femme. Bon. Donc chacune fera en moyenne un garçon et une fille et ça va se maintenir tel quel. Imaginez maintenant qu'apparaisse là-dedans une femme parthénogénétique. Une femme qui produit des enfants mais sans sexe. Et imaginons qu'elle en produise autant que les autres. Elle en fait 2. Ben, la génération d'après, ça fera 2 filles. Puis les 2 filles, elles vont en faire chacune 2. Ça fera 4 à la génération d'après. À la génération d'après, ça en fera 8. Au bout de 10 générations, 2 puissance 10, ça fait 1000. 24, bon, on va laisser tomber les 24. Au bout de 20 générations, ça en fera 1 million. Au bout de 30 générations, 1 milliard. Au bout de 40 générations, 1000 milliards. Donc en 40 générations, une femme parthénogénétique qui fait 2 enfants comme les autres, mais 2 filles comme elle, aura éliminé les hommes et le sexe de la population de toute l'espèce. Alors, je ne sais pas si ça vous effraie. J'ai vu 2 sortes d'hommes, d'ailleurs, par rapport à ça. Il y en a qui disent « Quelle horreur, on va disparaître !» Alors, je leur dis « Vous inquiétez pas, ce n'est pas vous, vous serez morts d'ici là. Hein. » Mais il y en a d'autres, au contraire, peut-être plus hédonistes, qui disent « Ah ben, il y aura un moment où ça va être génial. Hein. » C'est le moment où il n'y aura plus qu'un homme pour des centaines de femmes. Bon. Donc, vous pouvez, en tout cas, réagir comme vous voulez, mais scientifiquement, et on peut montrer que ce genre de choses s'est produite chez des lézards, chez des grenouilles, chez des plantes, chez des tas d'animaux, etc. Bon. Et donc, le problème, c'est qu'effectivement, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il existe des espèces qui ont perdu le sexe, mais que ces espèces s'éteignent beaucoup plus vite que les autres. Quand je regarde l'histoire des formes vivantes, je trouve que toutes les espèces qui n'ont pas de sexe, elles sont tout au bout de l'arbre. Les espèces qui n'ont pas de sexe, celles qui sont apparues il y a longtemps, manifestement, elles ont disparu. Sauf un groupe. Bon, on a une exception, je vous préviens. Mais à part ce groupe-là, toutes les espèces asexuées sont récentes. Et donc, on a vraiment l'impression que le fait de perdre de sexe, c'est mauvais pour l'espèce. Donc, vous voyez, le fait de perdre de sexe, c'est sélectionné positivement par la sélection naturelle à court terme, Mais à long terme, c'est mauvais pour l'espèce. Et ça, c'est un truc très difficile à admettre parce qu'on a toujours l'impression que tout est fait pour le bien de l'espèce, alors que ce n'est pas du tout le cas. Si un truc se reproduit mieux qu'un autre, même s'il conduit l'espèce à s'éteindre, eh ben, il va se développer. Voilà. Donc ça, c'est un espèce de tabou idéologique qu'on a chez nous. Alors après, il y a le créationnisme. Bon, dans ma vie d'enseignant, j'ai eu très peu de problèmes avec des créationnistes. J'ai eu une étudiante créationniste une fois qui est venue me dire qu'elle était dérangée par ce que je racontais, et je lui ai dit que si ça la dérangeait, c'était son problème, c'était pas le mien, mais que je pourrais pas, moi, lui renseigner autre chose. Ça me pose un problème, effectivement, de savoir comment traiter une étudiante comme ça. Normalement, je trouve qu'elle devrait arrêter la biologie. On peut pas être biologiste et ne pas croire à l'évolution. J'ai eu le problème de façon plus intéressante quand je suis allé dans des pays du Maghreb, par exemple, raconter mes histoires d'évolution, parce que je parlais avec des étudiants qui devaient s'occuper d'amélioration des plantes ou des animaux. Et donc là, dans le domaine de l'agronomie, et là, en général, j'ai pu assez facilement régler le problème en leur expliquant qu'il y a une vision religieuse du monde et qu'on a ce qu'on veut, mais que dans le cadre de la vision scientifique, il n'y a pas 36 manières de voir les choses et que l'évolution est incontournable. Et en général, ça ne posait pas de problème. Là où on a des problèmes, c'est avec certains types d'intégrisme religieux. Et effectivement, aujourd'hui, moi, au niveau de mes étudiants, je n'ai pas trop ce problème. Mais je connais des enseignants du secondaire qui ont le problème. Et donc, comme je suis au Muséum d'histoire naturelle, on fait partie un peu des gens qui sont un peu des références sur ces questions-là. Je suis un collègue qui était là d'ailleurs l'année dernière, qui s'appelle Guillaume Lecointre, et avec lequel on va très souvent intervenir dans des lycées. On est appelé par des profs. Hein. Par exemple, il y a quelques années, des profs de Vaux-en-Velin nous ont vraiment demandé de venir essayer de leur donner un coup de main. Un lycée dans lequel il y a une majorité d'élèves créationnistes. Et donc, c'était intéressant pour nous d'aller discuter avec ces élèves. C'est assez drôle d'ailleurs parce que ça se passait plutôt bien. Ils nous écoutaient, on discutait, mais il n'y avait pas d'agressivité du tout. Et les profs, après, nous disaient que c'était très curieux de voir comment ils acceptaient de discuter avec nous, alors qu'avec eux, ils n'acceptaient pas. Et la raison avait l'air assez curieuse, hein, parce qu'ils avaient demandé à leurs élèves, mais pourquoi vous acceptez de discuter avec lui et pas avec nous? Et ils disaient, bah oui, mais lui, il vient, il n'en a rien à foutre de nous, donc il n'y a pas d'enjeu pour lui à ce qu'on le croit, alors que vous, on sait bien que vous êtes payé pour qu'on vous croit, donc... Et du coup, on vous croit moins. C'était assez étonnant comme... Donc effectivement, c'est un problème qu'on rencontre aujourd'hui. La montée des intégrismes religieux crée un problème vis-à-vis de l'évolution. Et c'est intéressant que dans les religions monothéistes, tous les intégristes sont opposés à l'évolution. C'est une des choses qui fait que j'aime bien l'évolution, c'est que les gens qui l'aiment pas, c'est en général les gens que j'aime pas.
Est-ce que ça reste un problème majeur aux États-Unis aussi ?
Il y a beaucoup d'intégristes religieux aux États-Unis. Donc voilà, oui, évidemment, c'est un problème. Et pour moi, c'est une espèce de signal fort. Est-ce que vous acceptez l'évolution ou pas pour savoir si vous êtes un religieux raisonnable ou non? Moi, j'ai rien contre les religieux. Mais à partir du moment où ils disent que l'évolution ne peut pas avoir eu lieu, je commence à avoir quelque chose contre eux. Et je me souviens que quand en Turquie, il y a eu la prise de pouvoir par ce qu'on appelait les islamistes modérés, eh bien, ils ont immédiatement interdit l'accès au site web évolutionniste. Et j'ai dit, pas si modéré que ça, alors.
Vous avez employé l'expression « un biologiste ne peut pas ne pas croire en la théorie de l'évolution ». Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que ça signifie, croire dans une théorie?
Je pense que c'est ce que je dis d'ailleurs aux étudiants qui, pour des raisons religieuses, ont du mal à accepter ce que je leur dis. Je leur dis, voilà, la science repose sur le fait de croire à quelque chose. Il faut croire que la méthode scientifique permet d'approcher la vérité, une certaine vérité en tout cas, mieux que d'autres.
On peut aussi avoir une vision à la Feyerabend, à la science tout est bon.
Oui, mais c'est de la croyance. C'est une croyance, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de la science sans fondamentalement poser comme principe que la méthode expérimentale, hein, que le fait de confronter vos prédictions à une réalité et ensuite de rejeter vos prédictions si elles ne correspondent pas à la réalité, que cette méthode-là va vous amener plus vers une vérité qui vous convient mieux que les autres. Si jamais vous décidez que cette méthode-là, elle ne vous dit rien du tout et que vous préférez lire un livre qui va vous dire la vérité, eh ben, vous êtes dans une autre croyance. Et donc, moi, je veux bien qu'on dans une même personne peuvent coexister les deux croyances, mais la méthode scientifique, c'est celle-là. Et vous savez, il y a eu un débat très intéressant entre un physicien, merde, je ne vais pas retrouver son nom, enfin bref, et Napoléon, et qui, donc... Je ne retrouve plus son nom. Bon, bref, qui avait développé le système des planètes. Et Napoléon lui demande, mais est Dieu là-dedans ?
Ça doit être Laplace.
Oui, c'est Laplace. Voilà, merci beaucoup. Et Laplace lui dit, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Hein ? Alors, heureusement, Napoléon ne connaissait pas l'épistémologie. Et il ne savait pas que dans la science, quand une hypothèse est inutile, on la rejette. Donc, bon, sur le coup, ça n'a pas créé de clash. Mais Napoléon, moi, ce que j'aime bien, c'est la suite. Hein. Napoléon lui dit, mais c'est peut-être, vous n'avez peut-être pas eu besoin, mais ça explique beaucoup de choses quand même. Et Laplace lui répond, oui, mais ça ne permet de rien prédire. Et voilà, je trouve que ça, c'est très fort, hein, cette idée que, bien sûr, vous pouvez accepter toutes sortes de vérités différentes à partir de vos croyances, mais les croyances qui permettent de fonder la science sont des croyances qui permettent de faire des choses prédictives. Vous ne pourrez pas prédire quelles sont les conditions qui font qu'un avion peut voler, quelles sont les conditions qui peuvent faire fonctionner un frigo, ou etc., avec des méthodes religieuses. La méthode scientifique est la seule qui sache faire ça. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut accepter ça comme ça, et à partir de ce moment-là, ben voilà, on fait la différence entre les différentes choses.
Une autre approche, je crois que c'est Lambrioin qui dit quelque part que la science commence là où les mots ont un sens bien défini. Est-ce que c'est le cas de la biologie ? Est-ce que, par exemple, un biologiste peut définir la vie ?
Alors, je ne crois pas à cette définition, très sincèrement. Plus je discute avec des physiciens, plus je trouve que définir la matière, je ne suis pas sûr qu'ils sachent bien le faire.
Clairement, non.
Le temps, n'en parlons pas trop non plus. Et la vie, alors la vie, moi, je n'ai pas de problème à définir la vie, très sincèrement. Je la définis comme, justement, le produit de la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'un être vivant, c'est un être qui a été produit par un processus historique. Et ce processus historique, il inclut la reproduction des organismes avec une hérédité des variations. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très particulier, hein, quand vous y réfléchissez. C'est-à-dire que les descendants des plus grands sont plus grands que les descendants des plus petits en moyenne. Et le fait que ces variations soient héritables, eh bien, ça fait que la sélection peut marcher. Parce que si jamais il y avait des individus tous différents, mais que les descendants des plus grands n'étaient pas plus grands que les descendants des plus petits, vous ne pourrez rien sélectionner du tout. Hein. Donc, alors, c'est cette hérédité qui fait la spécificité du vivant. Et cette hérédité, elle est due à quoi ? Elle est due au fait qu'il y a dans les êtres vivants une information codée sur une molécule extraordinairement stable qui garde cette information. Et cette information, elle est codée, donc comme je le disais, donc elle va pouvoir être lue par l'organisme pour se fabriquer lui-même. Et donc ça, c'est vraiment la spécificité du vivant, c'est le fait d'avoir cette information qui a été progressivement élaborée au cours des temps par le phénomène de sélection naturelle, c'est-à-dire de variation. C'est une information qui est capable de varier, qui peut être sélectionnée et qui va induire la production d'êtres vivants. Donc l'être vivant lui-même, c'est une entité matérielle, bien sûr, hein, mais sa spécificité, c'est de transférer de l'information et d'avoir été produit par ce processus de sélection naturelle sur de l'information. Donc c'est un problème intéressant. Hein. Moi, j'appartiens à une société française que j'adore, c'est la Société française d'exobiologie. Ah, c'est française d'exobiologie, donc c'est la société qui étudie les êtres vivants sur les autres planètes. J'aime bien parce que la biologie, c'est un peu pénible à cause de la quantité effroyable de données dont on se trimballe. Vous voyez, il y a toutes les espèces, alors il y en a plein qu'on ne connaît pas encore, mais il y en a déjà beaucoup trop pour qu'on puisse les connaître toutes. Et puis il y a tous les trucs, tous les gènes, l'ADN, les protéines, les machins. Il y a une quantité de données folle, on fait des big data avec les génomes. On est vraiment noyé sous les données en biologie. En exobiologie, on a zéro donnée. C'est génial, on n'a pas un seul être vivant extraterrestre qui ait jamais été trouvé. Donc on travaille sans données. Et donc c'est enfin un domaine scientifique où on est obligé de réfléchir. Ça, je trouve ça génial parce qu'en biologie, on ne réfléchit plus, on n'a plus le temps. Hein. Il faut séquencer des génomes, acheter des gros appareils pour faire ceci, cela, etc. On passe notre temps à faire du business. L'exobiologie, donc, c'est un domaine génial. Et du coup, la question, c'est, imaginons que je sois sur une autre planète et que je vois un machin et je me demande, est-ce que c'est vivant ? Comment je saurais ? Et pour moi, la réponse, c'est, si je trouve qu'il y a une information stockée, codée et reproduite par ce machin-là, alors il est vivant. Évidemment, ça pose problème sur Terre de savoir si certains ordinateurs pourraient devenir vivants un jour ou l'autre. Mais bon.
Quelle est la différence entre ce type de discours scientifique à zéro information et de la science-fiction qui ou de la hard science-fiction qui s'amuse, qui s'assume comme telle?
Non, je pense qu'il n'y en a pas. Franchement, je pense qu'il n'y en a pas. Mais justement, que la hard science-fiction, parce que le mot science-fiction a pris des sens très divers. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr la hard science-fiction qui s'appuie absolument sur de la science. Et puis après, on a rajouté le space opéra, l'heroic fantasy, etc. Là, on n'est plus du tout dans la science. Mais effectivement, essayer d'imaginer d'autres mondes, c'est de la science-fiction. Sauf que là, on n'est pas en train de... La science-fiction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va choisir une représentation d'un autre monde et puis jouer avec. Alors que nous, on essaie juste de voir quelles sont les caractéristiques qu'on devrait absolument trouver dans un autre monde vivant. Donc moi, je vous parle de cette histoire d'information. Et quand on s'amuse à se poser la question quelle tête pourraient avoir des extraterrestres, de la vie extraterrestre, voilà, moi, par exemple, j'ai une proposition à vous faire. Je pense que si jamais il y a de la vie sur une autre planète que la nôtre, qui soit une planète tellurique, c'est-à-dire une planète avec du sol solide, hein, parce que si jamais c'est gazeux ou liquide, ça ne marche pas, mais avec un sol solide, et une vie qui soit une vie comme la nôtre, qui utilise la lumière de l'étoile la plus proche comme source d'énergie principale, ben à ce moment-là, je vous parie qu'il y aura des arbres. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà demandé pourquoi les arbres ont un tronc. Oui, c'est des questions comme ça qu'on se pose des évolutionnistes. Pourquoi le sexe? Pourquoi les arbres ont un tronc? Pour les arbres ont un tronc, c'est une question très simple. Si vous y réfléchissez bien, c'est bête d'avoir un tronc, parce que quand il y a du vent, on peut tomber, puis c'est un truc qui vieillit, qui finit toujours par casser, etc. Il serait bien mieux à plat par terre, les arbres, hein, y a pas de doute. Hein. Mais ça aura un gros défaut si c'était à plat par terre, c'est qu'il suffirait que le voisin soit 10 cm au-dessus, et puis il piquerait toute la lumière. Et donc, c'est ce qui s'est passé, en fait. Hein. Chacun piquant la lumière du voisin a grandi, et c'est comme ça qu'on a fabriqué des arbres. Les arbres ont un tronc pour piquer la lumière des voisins ou pour ne pas se faire piquer la lumière par leurs voisins. C'est comme vous voulez, c'est la même chose. Et donc, évidemment, n'importe quel système dans lequel il y aura de la vie avec de la sélection qui favorise les variations qui marchent le mieux et qui sera tellurique, eh ben vous aurez, l'énergie viendra de l'étoile la plus proche, et ben il y aura eu une compétition pour avoir cette énergie, et donc il y aura des arbres. Peut-être que ce sera des arbres mobiles, mais en tout cas, il y aura des arbres. Il y aura des trucs très hauts qui iront chercher la lumière au-dessus des voisins.
Quelle est la proportion de lecteurs et d'amateurs de SF parmi les membres de cette société française d'exobiologie?
Ah tiens, j'ai pas fait de sondage. Ben, je vais le faire. Promis, la prochaine fois, je vous donne le résultat.
Vous-même, vous êtes lecteur, amateur?
J'ai lu beaucoup de SF dans ma jeunesse. J'avoue que maintenant, j'en lis moins. J'en lis toujours un peu, mais j'en lis moins parce que déjà, on a beaucoup de trucs à lire quand on... Et donc, voilà, je lis pas mal de science. Et quand je lis pas de la science, je lis carrément des trucs qui n'ont rien à voir souvent. Mais dans ma jeunesse, j'en ai lu énormément et je pense que ça a influencé ma manière de faire de la recherche.
Je suis presque tenté d'arrêter le débat ici dans la mesure où je suis persuadé qu'il y a des tas de questions dans la salle sur ce genre de sujet. Donc est-ce que quelqu'un veut poser la première question? Oui.
Merci, bonjour. Je voulais revenir sur votre définition des êtres vivants. Dans le cadre de sa définition et du processus que vous décrivez, ça veut dire que si demain l'homme crée un être biologique, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme nous, une machine biologique, est-ce que ça veut dire que selon votre définition, ce ne serait pas un être vivant? Et on en parlait ce matin, comme le golem de Jérémie, est-ce qu'il faudrait le défaire?
Bien, alors... On peut revenir d'abord sur cette définition. Je voudrais vous dire qu'il y a en gros deux manières de définir le vivant. Je vous ai donné la mienne, celle des généticiens, donc d'une vision assez informationnelle, et ça va répondre un peu à votre question après. Il y a une autre définition qui est plus physiologique, hein, qui est fondée sur le métabolisme. C'est-à-dire qu'un être vivant, c'est une structure qui gère de façon très coordonnée des relations chimiques, physiques et de transfert de matière et d'énergie. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec ces deux définitions, c'est que pour tous les êtres vivants terrestres, elles collent, sauf deux. Aux deux bouts de la chaîne de taille. Les plus petits, les virus, qui sont constitués juste d'une molécule d'ADN, ils sont issus de la sélection naturelle. Donc selon la définition des généticiens, celle que je vous ai donnée, les virus sont vivants. Mais pas pour les physiologistes. Parce que les virus n'ont pas de métabolisme, ils doivent squatter le métabolisme d'une autre cellule, une bactérie ou une cellule de notre corps, pour vivre. Donc le virus est vivant pour les généticiens, pas pour les physiologistes. Et à l'opposé, vous avez la Terre, Gaïa. Les physiologistes ont appelé Gaïa, la Terre Gaïa, de manière à lui donner justement un nom d'être vivant. Et on dit que la Terre, il y avait des interactions coordonnées, des échanges de matière et d'énergie coordonnées, donc qu'elle était vivante. Mais les généticiens trouvent ça absolument affreux qu'on dise ça, parce que, évidemment, la Terre n'est pas issue de la sélection naturelle. Il n'y a pas eu une Terre qui fabriquait des petites terres, et puis quand ça marchait, on les gardait, et puis celles qui ne marchaient pas, on les éliminait. Et du coup, ce qui est la spécificité d'un être vivant, qui est d'être adapté à son environnement, ne peut pas marcher à l'échelle de la Terre, qui n'a pas été sélectionnée en tant que telle. Donc vous voyez que ces deux définitions collent, mais pas toujours. Moi, si je garde celle des généticiens, si nous fabriquions un être biologique, mais que nous le fabriquions en utilisant une information qui soit issu de... Parce que quand même, si on fabrique un être biologique, il faudrait bien qu'on utilise des informations qui servent à faire des êtres vivants actuels, c'est-à-dire une information qui permet de faire des êtres vivants. À ce moment-là, cette continuité informationnelle me suffit à dire que c'est vivant. Il n'y a pas besoin qu'elle ait été engendrée elle-même. Vous voyez, c'est l'origine de l'information qui compte. Maintenant, effectivement, si je fabriquais un ordinateur capable de s'auto-reproduire, c'est-à-dire capable de fabriquer d'autres ordinateurs comme lui, et que cet ordinateur, je lui donnais des capacités de variation héritable, ce qui n'est pas du tout évident, actuellement on ne fait pas ça. C'est-à-dire que si jamais les descendants de cet ordinateur avaient des caractéristiques de leurs parents écrites sur un programme, mais qu'il puisse y avoir des variations et qu'il y ait une sélection, ce truc-là pourrait devenir vivant au bout d'un certain temps, pourquoi pas? À mon sens.
Une autre question? Le micro arrive, je crois.
C'est par rapport à la question du ton général des sciences par rapport à la religion. J'ai bien compris votre approche sur les sciences naturelles, mais je me demande comment des adeptes des sciences humaines et sociales peuvent rapprocher la question par rapport à cela. J'ai un nombre d'idées, mais là, sur un point précis, vous avez dit que la science est prédictive et pas la religion. Mais à travers l'organisation sociale que la religion peut générer dans une société, elle peut créer des prédictions. Elle peut avoir une volonté prédictive et des fois, ça peut marcher dans une certaine mesure vu que les sciences sociales fonctionnent par rapport à une marge probabiliste, on va dire.
Oui, c'est vrai que c'est un problème. Je pense que c'est un problème effectivement difficile de relation entre les sciences de la nature et les sciences humaines. Il y a une certaine tension entre ces deux types de sciences. Alors, du coup, elle s'appelle science dure, science molle, etc. Ou science humaine, science inhumaine, selon de quel côté vous vous mettez. Et du coup, se crée entre ces deux types de sciences un conflit sur ce qu'on appelle le relativisme. Le relativisme, ça consiste à présenter la science comme une activité humaine comme les autres, dans laquelle il va y avoir des conflits sociaux qui vont donner naissance à des luttes de pouvoir, et puis il y en a qui vont gagner, d'autres pas. Et donc, quand il y a une controverse scientifique, eh bien, les relativistes disent que celui qui gagne la controverse scientifique, c'est celui qui a été le plus puissant socialement, et que ça n'a rien à voir avec la réalité. Évidemment, c'est des gens de sciences humaines qui disent ça. Et nous, ça nous énerve un peu, vous voyez, parce que nous, il y a des fois, quand on fait de la recherche, la réalité nous résiste et on voit bien qu'on aimerait bien trouver quelque chose et on ne le trouve pas. Et la réalité, elle ne veut pas faire ce qu'on lui demande. Et donc, je ne peux pas être d'accord avec cette vision. C'est un cas intéressant qui a été développé par un grand relativiste français qui est la controverse entre Pouchet et Pasteur sur la génération spontanée. C'est que jusqu'à la fin du 19e siècle, il y a eu un débat pour savoir si la vie pouvait naître spontanément depuis la matière inerte. Et donc, au Moyen-Âge, on racontait que les souris naissaient du linge sale. C'est pas compliqué, vous laissez un gros tas de linge sale dans un coin, vous attendez 15 jours, et après, il y a des souris dedans. Donc, vous voyez bien que ça marche. Bon, mais on a montré qu'en fait, ça ne marchait pas, qu'il fallait qu'il y ait des souris qui soient venues, mais qu'elles n'apparaissaient pas spontanément du linge sale. Mais ça s'est réfugié dans les trucs plus petits. Alors, les mouches naissent de la viande en décomposition. Là, il a fallu plus longtemps pour montrer que ce n'était pas vrai et que s'il n'y avait pas une mouche qui pondait, il n'y aurait pas de mouche qui ressortirait. Mais ça s'est réfugié à ce moment-là dans des organismes encore plus petits, des organismes microscopiques. Et là, pour les organismes microscopiques, il a fallu attendre effectivement, pasteurs, donc ils fassent des manips avec des cols de cygnes, etc., des trucs assez compliqués. Et puis il avait en face de lui, à l'Académie des sciences à Paris, un dénommé Pouchet, qui lui défendait l'idée qu'il y avait de la génération spontanée. Et quand on analyse bien l'histoire de la controverse, on constate que Pasteur a gagné contre Pouchet. Ces manips étaient assez bien faites, mais au fond, elles auraient pu être critiquées. Et ce que dit donc Bruno Latour, qui est le relativiste dont je vous parle, qui se trouve être le directeur scientifique de Sciences Po, Bruno Latour affirme, il s'est calmé depuis d'ailleurs, hein, mais Bruno Latour affirmait que donc si Pasteur avait gagné, ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il n'y avait pas de génération spontanée, c'était juste qu'il était, il avait des meilleurs potes dans l'Académie des sciences et qu'il avait fait un réseau vachement bien, et donc c'est pour ça qu'il a réussi à écraser Pouchet. Peut-être que Latour a raison sur cette controverse-là, mais moi, ce que je pense que ce dont tous les scientifiques de la nature sont convaincus, c'est que même si, imaginons que Pasteur ait perdu et que Pouchet ait réussi à gagner, et ben 15 ans après, il y aurait eu une nouvelle controverse entre un mec qui aurait défendu le fait qu'il n'y avait pas d'origine spontanée de la vie, et ça aurait continué jusqu'au jour où il y en aurait un qui aurait démontré qu'il n'y avait pas de génération spontanée, et à ce moment-là, ça s'est arrêté comme ça s'est arrêté avec Pasteur Pouchet. Donc, effectivement, à chaque instant, vous pouvez toujours penser que dans les controverses, il y a des jeux de pouvoir, mais dans les sciences de la nature, il y a quand même une réalité qui finit par faire la différence entre ceux qui ont compris le truc et ceux qui se sont trompés. En sciences humaines, vous avez raison, c'est un vrai problème. On n'a pas un filtre aussi clair. Hein. Et du coup, les sciences humaines, ceci dit, la biologie, ça fait pas longtemps. Moi, je vous dirais, la biologie n'est une science au sens dont je vous parle là que depuis Darwin. Avant Darwin, je vous raconte tout ce que je vous dis là sur les mouches. Il y avait des histoires. Il y avait des arbres qui donnaient des feuilles qui tombaient par terre et qui devenaient des oiseaux. D'autres feuilles qui tombaient dans l'eau et qui se transformaient en poissons. Les spermatozoïdes humains, dans les conneries qu'on raconte encore aujourd'hui, vous savez qu'il y a encore des gens pour dire à leurs enfants que le papa met une petite graine dans le ventre de la maman. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que l'enfant est le produit du père, que la mère n'est qu'un terreau plus ou moins fertile qui va nourrir l'enfant. Mais il faut arrêter de dire ça aux enfants, c'est très très grave. Hein. Et à l'époque, on pensait que si la semence du père donc, tombait pas dans la femme mais dans la terre, ça faisait des mandragores. Donc vous voyez, la biologie, pendant très longtemps, elle a été aussi une science dans laquelle il n'y avait pas de choses très très fermes sur lesquelles s'accrocher, puis ça a pris du temps. Moi, je pense que les sciences humaines sont encore relativement jeunes et qu'elles ont elles vont avoir besoin d'un peu de temps avant d'en arriver à des capacités à créer des prédictions testables. Mais je pense qu'elles commencent à y arriver dans certains domaines d'ailleurs, et je pense que ça viendra. Mais que si c'est le fait que ce soit des sciences, ça va les amener à chercher ce genre de choses, alors que les religions ne cherchent jamais à montrer que ce qu'elles racontent est faux. C'est ça la différence de base. C'est drôle, il n'y a que des hommes qui posent des questions. Comment
non.
ça se fait
Non, non.
Ah, voilà.
Moi, c'était par rapport, pour revenir à l'idée du sexe, et donc avec les espèces qui sont uniquement féminines. Comment est-ce qu'on détermine le sexe? Est-ce qu'il peut y avoir plus... Enfin, est-ce qu'on a des espèces où il n'y a plus de deux sexes ou autre?
Alors, ça dépend ce que vous appelez sexe. Quand, donc, dans les êtres vivants tels que nous les connaissons, il faut, quand il y a du sexe, ça veut dire qu'il y a deux organismes qui se sont réunis pour en faire un troisième qui procède des deux précédents. Bon, on va simplifier parce que je vais enlever les bactéries. Ça arrive chez les bactéries, mais c'est tout, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent, etc. Il y a du sexe chez les bactéries, contrairement à ce qu'on raconte souvent. Il y en a plein même, mais ce n'est pas le même que le nôtre. Bon. Prenons chez les animaux et chez les plantes pour se simplifier la vie. Donc, vous avez deux cellules qui vont fusionner et qui vont fabriquer un œuf, et cet œuf deviendra un embryon. Voilà le principe de base pour ces espèces-là. Et quand les deux cellules n'ont pas la même taille, et qu'il y en a une toute petite et une très grosse, alors la petite, on l'appelle mâle, et la grosse, on l'appelle femelle. Et la petite, à elle toute seule, elle ne peut pas faire un petit. La grosse, à elle toute seule, elle peut faire un petit. Donc, quand vous avez des formes qui perdent le sexe, c'est nécessairement qu'il n'y a plus que des femelles. Les mâles, ils peuvent pas, les mâles ne peuvent que parasiter des femelles, ils ne peuvent pas faire des enfants eux-mêmes, vous voyez, alors que les femelles peuvent. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît. Alors question du nombre de sexes, ça c'est un truc compliqué. Premièrement, il y a des espèces hermaphrodites, donc où chaque individu a les deux sexes, et du coup vous pouvez dire qu'il n'y a qu'un seul sexe, tout le monde est hermaphrodite. ça dépend ce que vous appelez un sexe. Si ce que vous appelez un sexe, c'est un groupe d'individus qui ne peuvent pas se reproduire entre eux, mais qui doivent aller chercher le groupe d'à côté pour faire les descendants, à ce moment-là, vous avez des espèces hermaphrodites où tout le monde a le même sexe. Mais vous avez aussi des espèces hermaphrodites où il y a deux sexes. C'est-à-dire que chez les primevères, par exemple, Darwin avait bien décrit ça, il y a des primevères avec des grandes étamines et puis un style très court dans la fleur, et puis d'autres primevères avec des petites étamines et un style très long. Et les plantes à grandes étamines ne peuvent pas se croiser entre elles. Elles doivent se croiser avec les plantes à petites étamines et réciproquement. Donc les deux sont hermaphrodites, mais vous avez deux sexes. Le sexe des grandes étamines et le sexe des petites étamines. Et puis alors chez d'autres plantes comme Oxalis, vous avez un troisième sexe avec des étamines intermédiaires. Donc là, elles ne peuvent toujours pas se croiser à l'intérieur du même sexe, mais elles peuvent se croiser chacune avec n'importe lequel des deux autres sexes. Et puis chez le trèfle, vous avez des systèmes encore plus compliqués où chaque individu ne peut pas se croiser avec des individus comme lui, mais où il y a des centaines de sexes. Ce qui donne vachement plus de choix, vous voyez, parce que dans un système comme le nôtre, on a, pour faire des descendants, on est encore limité à choisir que dans une moitié de la population. Pour nous, ce n'est pas très grave, on n'a qu'à aller choisir les individus comme ça. Mais pour une plante, pour un pollen, c'est drôlement embêtant, vous voyez. Si un pollen se trouve sur une plante et qu'une abeille l'emmène sur une autre, s'il a une chance sur deux de tomber sur une plante du même sexe et que du coup ça ne marche pas, c'est très embêtant pour lui. Alors chez le trèfle, ils ont résolu ce problème. Comme il y a une centaine de sexes, la probabilité de tomber sur le même sexe est très faible. Donc le nombre de sexes, est pris dans ce sens-là, peut être très grand. Voilà.
Je crois que ce sera le mot de la fin. On a épuisé notre temps. Je voudrais remercier Pierre-Henri pour cette belle conférence. Et puis merci à vous tous pour être venus et puis bonne fin de festival.